Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
16h30, 17h, Marc et Magui sur Radio Shalom.
Oui, bonjour, bienvenue sur Radio Shalom 94.8. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans C'était pas prévu au programme. Aujourd'hui, nous sommes avec d'abord notre réal d'amour, monsieur Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour Marc, bonjour Magui.
J'ai dit Arnaud, bonjour, Arnaud. Notre réal d'amour, Arnaud Bonnebourg, parce que ça a rimé, mais aucun rapport. Donc je sors des lourdeurs comme ça, parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur car je suis avec Magui. Bonjour Magui.
Bonjour Marc.
Mais
ça
pas
va
que. Tu vas nous présenter un invité.
Un invité extraordinaire.
Un homme de théâtre.
Qu'on reçoit,
mais
pour la première fois.
Et qu'on reçoit pour la première fois, et j'aime beaucoup ce monsieur.
Moi, et moi aussi. Avant de présenter notre ami acteur, auteur et metteur en scène, je voulais d'abord, Marc, qu'on ait tous les deux une très très tendre pensée.
Forte
pour,
pensée.
Pour Karen Taïeb, pour les enfants de Gilles et Karen, les petits-enfants, tous ses proches. On a tous été très 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 touchés par le départ de Gilles. Et on ne va pas redire ici tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que je pense que toute la communauté juive est derrière lui et que toute la communauté juive va essayer de faire perdurer tout ce qu'il a fait. Et parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà,
c'était donc
un vrai mensch. On avait envie de lui faire un petit hommage.
Et je voulais rajouter quelque chose à titre personnel. C'est lui qui m'a donné ma première chance dans un festival.
Il
avait un
ouais.
festival qui s'appelle Onze Bouge.
Qui existe toujours.
Et qui existe toujours. Et il m'a fait chanter là. Et puis on l'a croisé maintes et maintes fois à la
Tzedaka. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà, donc Karen, ça c'était pour toi. Alors aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Bèche. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Magui, bonjour
comment
Marc.
Vas-tu
bonjour.
Comment vas-tu?
Bien, avec vous là.
Voilà.
C'est que de l'amour.
C'est que de l'amour. Alors écoute, je vais te présenter un petit peu parce que tu sais que notre émission n'est pas très longue. On a 26 minutes pour nous et avec toi.
Mais ça va être intense.
Ça va être intense. Mais je voudrais quand même te présenter un petit peu. Et puis si c'est pas bon ce que je dis, tu m'arrêtes surtout parce que des fois,
pas de soucis,
on peut. Mais je voudrais te présenter quand même aux auditeurs. Donc tu es d'origine lyonnaise, d'accord?
Oui.
Je sais. On sait tous, parce que quand on te voit au théâtre, on sait que tu as, je pense, toujours aimé le théâtre. Parce que là, on a l'impression que tes pieds sont ancrés dans le théâtre, en fait. Ils sont sur scène, ancrés, on ne bouge plus. À l'âge de 10 ans, déjà, tu rejoins une troupe locale et tu découvres même les textes classiques. Tu arrives à Paris, tu vas au cours de Yves Brinville, Jean Negroni et Andreas
Voudzinas. Ouais, magnifique.
Ce qui change un peu, parce qu'on entend toujours les cours Florent. Toi, tu n'étais pas au cours Florent. te vois très régulièrement depuis des années, tu es très présent au théâtre. Et puis un jour, tu crées et tu joues avec Éric Métayer plus de 700 fois une pièce magnifique, Les 39 Marches, au théâtre La Bruyère. Ça vous a valu d'ailleurs à tous les deux un énorme succès du public, une très bonne critique, et du coup à Molière.
Ouais,
en 2010, donc ça c'était
bravo.
Hyper important, je trouve. Ensuite, tu deviens même le mari de
Chantal. Ça a changé ma vie, ouais.
Là, j'imagine. Tu deviens le mari de Chantal Latsou dans Nelson.
Oui, elle m'a choisi.
Voilà, elle t'a choisi, c'est t'as de la chance. Hein. Tu joues dans Le Gros Diamant du Prince Ludwig. Tu obtiens aussi un Molière en 2018 de la meilleure comédie. Tu enchaînes avec Les Sept Morts sur Ordonnance. Ce sont des pièces, je sais pas, je pense que les auditeurs, ce sont des titres de pièces qui leur parlent parce qu'on les a vus à l'affiche partout, dans le métro, partout. C'était sur les colonnes Maurice, c'était partout. Et puis aujourd'hui, nous, on avait envie de te recevoir parce qu'on a eu la chance de te voir sur scène, sur ton premier seul en scène, qui s'appelle Maquisard. Alors, l'histoire familiale de toi, Jean-Philippe, ton histoire, celle de ta famille, une famille comme les autres, mais qui se retrouve dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Jusque-là, c'est un peu banal. Et au cours de tes recherches, dans plein de boîtes que tu as trouvées chez tes grands-parents, des photos, des documents, plein de choses bizarres. En fait, tu as fait... ce que font les enfants et les petits-enfants quand ils découvrent ce genre de boîte, on cherche. Et en cherchant, on trouve des choses. Et tu te rends compte que ton grand-père a été un résistant médaillé dans l'une des régions les plus stratégiques de la Seconde Guerre mondiale, Moulins, au bord de la ligne de démarcation. Et tu t'es mis à écrire un seul en scène sur l'histoire de ton grand-père pour lui rendre hommage.
En même temps, la région a été prédestinée.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en fait, ce seul en scène, en fait, quand on arrive dans le théâtre, on voit sur scène des livres, des dictionnaires, des lampes. Il y a une petite ambiance cosy comme ça, une valise, des caisses en bois, des photos, des papiers froissés que tu jettes, que tu reprends.
Des manuscrits. Ouais.
Voilà, des manuscrits. Et t'es seul, mais tu interprètes trois personnages. Instituteur, ton grand-père, un résistant, un petit garçon juif. Et, non, quatre, pardon.
Quatre.
Et un collabo. Donc, un travail d'écriture pour toi, une première. avec beaucoup de soin dans tout, dans l'écriture, dans le décor, dans la mise en scène. Tout est sobre, tout est intimiste, tout est très joli. Nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, on te dit bravo.
Ah, merci.
Déjà, ouais. On l'a vu. Hein, Marc, je crois que tu ne peux, peux pas dire... si tu dois ajouter quelque chose, c'est quoi par bravo?
Non, c'est... Alors, pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient le voir, en fait... Ce seul en scène, on ne s'ennuie pas une seconde. Moi, je suis très dur au théâtre parce que je ne suis pas quelqu'un qui va voir les pièces de théâtre toutes les semaines. Mmh. Donc, il y a deux pièces qui m'ont tapé dans l'œil. Une, c'est Le Cercle des Poètes Disparus,
que
j'adorais.
Ils sont dominés, d'ailleurs.
Je l'avais vu le soir et, en fait, me levant très tôt, je peux m'endormir si je n'aime pas. Et la tienne, je l'ai vu un dimanche après-midi. Si je ne m'abuse, il était à peu près 17-18 heures. Hein, c'était un dimanche.
Ouais, 16 heures même.
Un samedi,
16 heures.
Un samedi.
L'heure de la sieste à la base.
L'heure où le week-end. Non, ben voilà. Ouais. Où tu peux, tomber en désuétude. Eh ben, pas du tout. Ouais. Je suis resté les yeux ouverts. J'ai kiffé. J'ai passé un très bon moment. Et en plus, c'est une période qui m'intéresse. Moi, j'aime l'histoire et j'aime cette histoire.
Et c'est vrai. Très méconnu d'ailleurs. Les maquisards. Moi, je sais que quand j'en ai parlé à mes enfants, il y en a une, elle m'a dit mais c'est quoi un maquisard?
C'est pas méconnu. C'est peut-être méconnu dans. On parle beaucoup des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les Français, il y a des Français qui ont aidé beaucoup à sortir de cette guerre, la preuve. C'est comme tous les malheureux massacres qu'il y a eu, quand on a parlé des enfants Dieu ou d'autres. Mm. Mais franchement, là, tu nous racontes une histoire dans l'histoire, avec un grand H, et c'est hyper intéressant. Je pense que toutes les écoles devraient aller voir ton spectacle.
Eh ben, on va en parler. Moi, je voulais l'avoir d'ores et déjà.
Que dire après tout ça?
Mais oui, non, mais t'inquiète pas, tu as à peu près eu 15 questions.
Ah, mais c'est magnifique.
Tu vas avoir
dites,
de quoi répondre. Moi, je voudrais savoir tout de suite quels sont les points communs que tu penses avoir justement avec ton grand-père.
Ah ouais, c'est beau comme question. Ah ouais, ouais, c'est super beau. Parce que mon grand-père, moi j'avais 8-10 ans, quand j'entendais des choses comme ça que je comprenais pas. Parce que moi, pourquoi j'ai écrit ce spectacle, je le dis souvent comme ça après à la fin du spectacle, mais c'est la bascule. Parce que c'est un endroit où on allait, nous, gamins, en vacances avec mes parents dans l'Allier. On se baignait dans cette rivière magnifique. On passait tout le mois d'août, temps de canicule, c'était super. Et je comprenais pas pourquoi mon grand-père ne venait jamais avec nous sur le bord de la rivière, sous ce pont.
Ouais.
J'ai appris plus tard qu'ils avaient fait sauter ce pont. Ouais. Voilà. Mais donc du coup, je comprenais pas. Et pour moi, c'était un lieu tellement un souvenir d'insouciance extraordinaire. Mm-hmm. Cette période-là, comme ça, où on n'a aucun souci, on est gamin, c'est juste le bonheur extrême.
Ah ouais, cousin, cousine, les vacances.
Vacances
chez
au bord
les grands-parents, en plus.
Ta grand-mère qui te prépare un grand bol de lait le soir pour te rafraîchir avec des glaçons dedans.
Ouais.
Le seul truc, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. C'est magnifique. Et quand tu comprends plus tard, quand tu grandis, que ce lieu d'insouciance pour toi, c'était un lieu en fait de tragédie, de drame pour des familles entières, pour ces Français de l'époque qui devaient passer la ligne de démarcation. La bascule, elle se fait dans ta tête et toi, tu te dis « Ah ouais,
d'accord.
En fait, moi, j'ai été heureux parce qu'il y a des gens qui ont eu des femmes et des hommes qui ont eu le courage de nous sortir de là.
Ouais. Donc, mais alors, quels seraient les points communs avec ton grand-père?
Alors, les points communs avec mon grand-père
Même au niveau caractère, tu vois, peu, par exemple. Qu'est-ce que tu retrouves de lui en toi, en fait?
Je suis un timide, moi.
Oui.
Je suis vraiment un timide qui s'est soigné avec le théâtre.
Ouais.
Et ce que j'aimais chez mon grand-père, c'était cette réserve, cette beauté qu'il avait, comme ça, de pas beaucoup parler. C'était un taiseux, il parlait pas énormément.
Ouais.
Quand il disait un truc, il avait beaucoup d'humour. Mais ce que j'aimais chez lui, c'était cette timidité et cette sensibilité à fleur de peau, mais derrière ça.
Ouais.
Et je crois qu'en fait, j'ai le même socle, sauf que moi, du coup, je suis allé vers le théâtre parce que gamin... Tu l'as dit, voilà, 10-12 ans, je suis tombé dedans.
Mmh.
Et du coup, ça m'a rendu service et ça m'a fait du bien.
Ça t'a ouvert, finalement, toi.
Voilà.
Et comment...
Je pense qu'il aurait fait un merveilleux comédien, en fait, mon grand-père.
Oui, certainement. En tout cas, toi, tu le joues très bien, ton grand-père.
Merci.
C'est vrai, hein. Et quand tu as découvert tout ça dans leur maison, donc si je dis ça... Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait? Parce que finalement, comme tu viens de le dire, tu ne le savais pas. Personne n'en avait parlé. Alors, t'avais quel âge déjà quand t'as découvert ?
En fait, c'est par étapes. Mmh. Donc, cet endroit où on découvre, où je découvre tout, c'est un endroit incroyable qui s'appelait la Garçonnière.
Ouais.
Et en fait, c'était une chambre que mes grands-parents avaient fabriquée dans le sous-sol de la maison,
ouais.
qui était à
j'aime
côté.
J'aime bien ce mot Garçonnière.
Ouais, j'aimais bien ça. Et ouais. moi, j'aimais bien aller dormir dans la Garçonnière,
ah,
alors
oui.
qu'on avait une chambre là-haut avec mon frère.
Ouais.
Et alors, j'étais mort de trouille parce qu'il fallait descendre dans le noir, traverser le garage pour aller dans cette chambre au fond, mais je devais déjà aimer me faire peur, je sais
ouais.
pas.
Et, ça fait et, partie du kiff de d'aller dans la chambre,
exactement,
en fait. Ouais.
Exactement. Et quand je rentrais dans cette chambre, je fermais, et là, j'étais dans un autre univers, parce
ouais.
qu'il y avait tous les meubles de ma grand-mère, donc, et il y avait ces tiroirs, et c'est en ouvrant les tiroirs dans ces meubles de bois là, qui sentent
le
vieux
fort,
bois magnifique.
C'est génial.
Voilà,
ouais. Et là, t'as trouvé des choses.
Voilà, et là, j'ai trouvé donc, ces boîtes de médailles, mais en fait, tu découvres ça comme dans un film, parce que quand ça fait plusieurs strates, quand t'es gamin, il y a un petit côté comme ça, chasse au trésor, quoi,
ouais.
et tout. Mais tu mets pas encore en perspective ce qui arrive. Et cette maison, là, ils l'ont gardée, on l'a gardée longtemps. Donc, du coup, j'y allais même à dos.
Ouais.
Et après, je retournais toujours là pour retrouver donc ces souvenirs. Ma grand-mère avait laissé tout au même endroit.
C'est génial.
Mais là, je continue à fouiller. Et c'est là où j'ai découvert des cahiers et des petits bouts de papier de ma grand-mère qui disait à mon grand-père, en fait, mm-hmm. elle écrivait à mon grand-père, des petits bouts de papier qu'elle devait lui passer des messages. Mmh. La Gestapo est passée aujourd'hui,
c'est
des
incroyable.
Trucs comme ça. Et
c'est
là,
incroyable.
Et après, quand t'es ado, tu dis waouh,
ouais.
là, il y a une histoire. Et c'est là que j'ai compris pourquoi, en fait, mon grand-père ne voulait plus du tout regarder un film de guerre à la télévision. Et qu'il ne regardait que le seul film qu'il avait le droit de regarder, c'était La Grande Vadrouille.
La Grande Vadrouille, c'est dingue.
Voilà.
Et alors, combien de temps ça prend entre le moment, en fait, où tu. T'as fait le tri dans ta tête,
ouais,
finalement,
ouais.
donc tu comprends vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé, et le moment où tu te retrouves pour la première fois sur scène à raconter ça. Il y a eu combien de temps ? C'est long de prendre une décision comme
ouais,
ça,
c'est long.
D'écrire
ouais.
l'histoire, parce que c'est
oui.
tellement personnel
ouais,
que
ouais.
c'est encore plus difficile.
Ouais, je suis revenu plus... Ouais, c'est vrai.
Hein ?
C'est vrai parce que je suis revenu plusieurs fois en fait dessus
mmh.
et j'ai fait comme tout le monde en fait pendant le confinement, pendant le double confinement qui a été tellement long, le deuxième.
T'avais le temps de réfléchir,
oh là là.
D'écrire, de barrer, de...
voilà,
ouais.
donc là j'ai eu le temps de reprendre mes notes et voilà, donc c'est là ce moment-là, mais ce qui était compliqué pour moi c'était d'arriver à parce que ça reste une pièce de théâtre, donc c'est un objet théâtral,
ouais.
mais d'arriver à mêler la vérité des choses sous une histoire qui pourrait sembler une fiction alors que c'est une vraie histoire
ouais.
et surtout aussi de trouver l'angle pour que justement comme disait Marc tout à l'heure pour que les gens ne s'ennuient pas
ouais.
pour que la transmission ait lieu.
Ah bah voilà, t'as dit le mot que j'attendais depuis tout à l'heure, la transmission exactement. Bah en fait c'est un sujet qui en plus redevient très actuel je trouve en ce moment avec tout ce qui se passe, on va pas revenir là-dessus. Donc en fait, est-ce que nous on a trouvé, Marc et moi, qu'il y avait un vrai message de transmission. Je voulais savoir si c'était, enfin je pense que c'est très important pour toi la transmission du
hyper
coup, parce
important.
Que c'est quelque chose qui est essentiel je pense dans la vie. Est-ce que dans ta famille aussi c'était essentiel la transmission ?
Oui.
Ouais.
Oui. Alors, comme mon grand-père, il avait vraiment du mal à en parler, et c'est pour ça que c'est le point de départ, c'est mon papa, en fait, qui est instituteur.
Ouais. Ouais.
Et donc, je suis vraiment fils d'instituteur, hein, tout ça. Et donc, du coup, c'est lui qui est le point de départ de ça, parce que c'est lui qui avait réussi à faire parler après ma grand-mère. Parce que quand mon grand-père est parti, trop jeune,
ouais.
et, mais c'est ma grand-mère qui l'a soigné, qui était une femme extraordinaire. Elle a été donc du coup son infirmière sur sa seconde partie de vie.
Oui.
Et du coup, quand ils ont vendu la maison de l'Allier, cette fameuse maison,
oui.
Elle est venue vivre donc du coup dans la maison des anciens combattants près de nous à Lyon, dans la région lyonnaise.
Mmh.
Et c'est là, mon papa, je l'ai soupçonné, parce que comme il écrivait des romans, de vouloir écrire.
Ouais.
Parce qu'il faisait beaucoup parler ma grand-mère, et c'est là-dessus où j'ai trouvé les dates, les épisodes qu'on voit.
C'est vraiment une histoire de famille.
C'est une
histoire écrite de famille, mais différemment. Lui, il l'a écrite et toi, tu l'as jouée. finalement.
Exactement, parce que là, il partait sur ces notes-là, etc. Donc, et c'est pour ça que c'était chouette que mon grand-père dise à mon papa, en disant, mais c'est magnifique, t'écris des romans historiques magnifiques, parce que c'est vrai que les romans de mon papa, c'est parce que c'est mon papa, mais c'est super beau, mmh. Et il a une plume incroyable, et du coup, mais il lui dit, mais il s'invite dans l'écriture, et il lui dit, mais là, c'est pas de l'écriture, c'est pas romantique, quoi, c'est pas de l'écriture romantique, c'est pas du romanesque. Là, moi, je vais te parler de la réalité, de la vraie réalité, et elle va pas forcément être belle à entendre. Ouais. Donc, est-ce que t'es prêt? Et la transmission, elle a lieu comme ça, de mon grand-père à mon papa, mon papa à moi, qui le joue. Voilà.
C'est magnifique, la transmission. Mais justement, en parlant de transmission, est-ce qu'il y a un conseil que tes parents ou ton papa, parce que je pense qu'il y a quelque chose entre lui et toi, quand même, avec toute cette histoire, est-ce qu'il y a un conseil qu'ils t'ont donné dans la vie et que tu appliques encore aujourd'hui?
Oui. C'est à travers le métier, en fait, parce que ils se sont rendus compte que j'étais un jusqu'au boutiste et que je suis capable d'aller au bout de mes trucs et tout ça, et ils m'ont fait quand même promettre de pas mettre ma santé à ce point-là pour ce métier. Voilà, parce que c'est vrai que...
Et donc, vois que tu vas trop loin, tu te dis, tiens...
Ouais, j'y pense.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, j'y pense.
C'est bien. C'est important, là. Bah, c'est important, les conseils qu'on applique encore. Est-ce qu'ils te donnaient un surnom quand tu étais petit?
C'était quoi, ton
surnom?
C'était Jean-Phi, ouais.
Jean-Phi.
Bah,
de quoi?
Alors, c'était... Il y avait aussi Filou.
Ouais.
Ça te va bien, Filou, je trouve.
Ouais, Filou, ça te va bien, ouais. C'est vrai. Filou, ça te va bien.
Filou. Ouais, il y avait plusieurs trucs. Bon, des fois, c'était Philippe. Le Jean disparaissait, c'était Philippe. Mm-hmm. Mais gamin, ça, c'est vraiment parce que c'est vous, je vous le dis, mais j'ai un peu. C'était Fifi.
Ah, bah voilà, on y arrive. C'était voilà, mon Fifi. Mais nous, c'est intéressant parce que tu verras.
C'était mon Fifi.
C'est marrant parce que je trouve qu'il a. Tu sais. On a la mauvaise habitude, surtout en France, de comparer les gens en musique, au théâtre, au cinéma.
Mais toi, t'aimes bien faire ça, mais tu te trompes jamais en général.
Non, mais il a un côté naïf, mais positif. Quand je dis naïf...
Naïf dans le bon sens.
Dans le bon sens, à la Pierre Richard. Oui. Quand tu parles, je retrouve Pierre Richard,
j'adore.
Qui est un peu perché, mais qui l'assume. Et je pense que t'as un côté perché. Et t'es tellement honnête avec toi-même et avec les gens à qui tu parles, c'est hyper touchant, je trouve.
Mais d'ailleurs, ça, je trouve que même on sent dans cette pièce. La vérité. Mmh. Voilà.
Ah, mais quand il nous parle,
la vérité.
Bon, c'est Filou, mais.
Non, c'est-à-dire qu'au départ, il met des Jean-Phi, après il a des Filou, mais là, on sait que c'est Fifi, en fait. Voilà. C'est ça, moi,
donc,
qui m'intéressait, c'était
on
le
est
côté.
À la radio, donc tu as quand même
le côté Fifi.
Qui...
Alors, on laisse un tout petit peu la pièce, mais en même temps, on va y revenir automatiquement, c'est obligé. Parce que nous, on a aussi des petites questions plus rigolotes, mais qui permettent aux auditeurs de connaître un petit peu mieux qui tu es, Jean-Philippe. Nous, on voudrait bien savoir comment tu gagnais ton argent de poche quand tu étais petit.
Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, comment les vendanges.
Bah tiens.
Bah, ouais, les vendanges.
Ah, c'est ça.
Les cerises et les vendanges.
Ah, c'est mignon.
Donc,
c'est ça.
C'est pour ça qu'il était bourré tout le soir.
Mais c'est génial.
Ouais, on mangeait les tranches de lard. Enfin, pardon de dire ça.
Non, le matin. Il n'y a pas de problème.
Parce que bon, on est quand même dans la région de Lyon. Mais je dis ça parce que ça m'a marqué. Parce que moi, j'arrivais pas, sincèrement, entre nous, manger ces grosses tranches le matin. Mais c'est
grillé dans l'huile.
Mais dans le vin chaud. Et donc, c'était ça. Mais parce que t'es gamin. Et voilà, donc même si c'était ma région, on allait des fois loin dans le Beaujolais, donc il fallait dormir sur place, espèce de dortoir et tout.
Ouais.
Et puis, donc je faisais ça avec mon frangin.
Et tu gagnais tes premiers sous comme ça.
Et je gagnais mes premiers sous comme ça.
Génial.
Donc les vendanges toute la journée. Et puis, les cerises. Alors ça, c'était bien.
Les
cerises dans les arbres, on montait dans les cerisiers.
Tous ceux qui l'ont fait ont aimé. Et le malheur aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus personne pour faire ça.
Pour faire ça, ouais. Plus de moins en moins.
On est obligé d'importer de la main-d'œuvre d'Asie, etc. Ou des pays de l'Est. Non, mais c'est. Alors que, ça te laisse des super beaux souvenirs.
Mais oui,
même
la
si
preuve,
c'est
regarde, la question, il me répond directement. Et si tu devais être un héros, en dehors d'être un maquisard, qu'est-ce que tu aurais pu être comme héros? Ou qui aurais voulu-tu être?
Qui j'aurais pu...
Avant que je te réponde, j'ai envie de dire un truc, c'est héros malgré lui.
En fait, moi, j'ai basculé en 77 avec la Guerre des Étoiles. Donc,
Donc là, d'accord.
Mes héros, ils sont là, quoi. En fait, ça sera un Jedi qui veut sauver la galaxie, quoi.
Ouais.
C'est un Jedi. Voilà.
Luke Skywalker.
Je me vois bien rentrer avec ma bure, ma robe de bure et tout ça.
Ah oui, d'accord. Voilà,
ouais,
rien à voir avec le
Bakiza,
en fait.
Non, non.
Rien à voir.
Parce que les Jedi, tu connais pas l'histoire, mais les Jedi ont quand même résisté.
Oui. D'accord. Ah, ça a un lien.
Ah ouais, c'est les rebelles.
Il y a Star Wars, il y a Maggie.
Parce que il y a quand même une transposition, hein, parce que quand on voit l'ordre de l'Empire et tout, c'est le nazisme.
Ah.
Et donc voilà, donc c'est vrai que comme quoi on y revient.
On y revient. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu dans ta vie, tu penses?
Oh, le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie.
Bah, c'est un des plus beaux cadeaux.
Ouais. Alors pardon, mais je veux dire un truc qui peut machin, mais c'est mes parents en fait.
Ouais.
C'est mes parents parce que c'est je dis toujours, j'ai une enfance Walt Disney.
Oh, c'est mignon, heureuse quoi.
Voilà, mais t'es sur la cour des, tu vois, la cour d'école, les platanes, ton papa instituteur, eux, des parents qui s'aiment, magnifiques et tout. Donc toi, t'as le bonheur total. Je crois que c'est le plus beau cadeau, c'est ce bonheur-là.
Mmh.
Et donc du coup, j'ai porté ça parce qu'après. Tu te rends compte que tout le monde n'a pas eu cette chance-là.
Ouais.
Donc c'est
joli.
Et quand Marc il dit ça de moi, je pense que tu vois c'est je dois ça à mes parents.
Bah,
c'est
exactement.
Pour ça que je fais le lien direct.
Alors, je te laisse poser la question du casting idéal, parce que je sais que tu aimes bien cette question, Marc.
Ouais, et puis il y a deux questions que j'aime beaucoup. En fait, on sait que tu es un gourmand et un gourmet.
Oui.
Et si tu devais organiser un repas, j'ai deux questions. Quel serait ton casting idéal avec des personnes qui sont de ce monde et des personnes qui sont dans les étoiles?
Wow.
Et qu'est-ce que tu leur ferais à manger?
Voilà.
Wow. c'est... Ouh.
Hein?
Commençons par le casting.
Par le casting autour de la table?
Oui, autour de la table.
Ça peut être n'importe quoi. Tu peux manger des artistes avec des familles, avec tout ce que tu veux.
Même s'ils sont...
Ah bah oui, même s'ils sont pas là. On te dit, on te laisse la possibilité ce soir, par exemple, d'avoir ce soir exceptionnellement des gens autour de ta table.
Bon, alors là, ça va être... Steven Spielberg.
Ouais.
T'as raison.
J'adore.
Là, voilà. Donc ça, voilà.
Voilà, ça c'est fait.
Et voilà, ça c'est fait. Ouais. Il ne peut pas ne pas venir sans George Lucas. Donc ça, c'est
d'accord.
Déjà...
Okay, ça,
c'est
ça va ensemble.
Ça, c'est compté Star Wars.
D'accord.
Voilà. Okay. Alors, j'aimerais avoir l'abbé Pierre.
Oui.
Très
bien.
Tout ça.
Ouais.
Et je voudrais Simone Veil.
Oui.
Je voudrais mes parents.
Oui, bien sûr.
La femme de ma vie, Laurence.
Bien sûr.
Vous.
Oh, c'est gentil. J'adore. On viendra. Moi, j'aime bien tes invités, donc.
Il y a encore des belles personnes que. Si, je voudrais Mary Poppins.
Oh! Ça, c'est ton côté.
Voilà,
je voudrais Marie Poppins.
Parce que j'ai plein de questions à lui poser, là, quand même.
Ah
il y a
oui,
des
parce que c'est
moi...
quand même spécial ce qui se passe dans son sac.
Oui, voilà.
À vous.
Moi, c'est le coup du sac.
Ah, moi, le coup du sac, il m'est resté là, j'ai pas compris. Et comment elle range les chambres? Moi, j'ai jamais réussi avec mes gosses. Donc, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Et qu'est-ce que tu leur ferais à manger?
Donc ça va être des choses pas avouables ici parce que
je suis
du terroir.
Mais c'est pas
vas-y,
grave.
J'attends manger
et tout.
Mais avoue-nous, je vais kiffer.
Il y a un truc sûr.
Pas tête campagne.
Non, mais il y a un truc sûr. C'est alors on revient à ça. C'est ma grand-mère.
Oui.
Parce que ma grand-mère, quand on arrivait dans l'Allier, donc au mois d'août, tout ça, il y avait un truc qu'elle faisait, mais magnifique. C'est la tourte aux pommes de terre.
C'est très bon ça.
C'est bon ça.
Et il y a du lard dedans.
Ah ouais. Non, alors on peut sans lard.
Sans.
Ouais,
sans
non, il l'a fait cachère.
Parce qu'elle faisait, voilà, ici.
Elle est sans lard.
C'est très bon, la tourte aux pommes de terre.
Et ça, on peut en manger.
Ouais.
Donc, je vous amènerai dans l'Allier pour en manger. C'est magnifique parce que ça sort du four, c'est énorme comme ça.
Ouais.
Et t'as une espèce de c'est recouvert d'une croûte, de, tu vois, magnifique.
C'est comme ce qu'ils disent les Anglais, comme les apple pie, sauf que c'est la pomme de terre.
Voilà, et à l'intérieur, donc t'as une couche de pomme de terre, une couche de crème, enfin une couche de pomme de terre.
C'est gratin,
c'est bon pour le régime.
C'est super bon.
Ah. Et en dessert.
Ça c'est
l'accompagnement.
Là, viande, t'es
fait. Alors, je suis très volaille.
Oui, c'est bien.
Un petit coco vin.
Ouais, voilà.
Du coco vin. Un coco vin.
Tu connais ça, toi?
Je travaille au Val d'Orangis.
J'ai visité la France.
Coco vin.
Et j'ai été invité.
Mais j'ai pas mangé ça depuis.
Alors, un coco vin, quand c'est bien cuisiné.
Oui.
Franchement, je dis pas que j'en mangerai tous les jours, mais c'est pas mal. Si tu veux, c'est comme le bœuf bourguignon quand il est bien cuisiné.
Ouais.
C'est très très bon, mais ça prend du temps.
Oui. D'accord. Il faut que ça mijote.
Voilà. Et tout, c'est super. Et le lendemain, c'est encore meilleur, c'est comme les pots au feu, tu vois.
Voilà. Et alors, en entrée, je suis dans les Madeleines de Proust. Hein, donc,
oui, vas-y.
Du coup, c'est en entrée, ça serait les bouchées à la reine. Donc ça, on ne peut pas essayer.
D'accord.
Ça, mais c'est bon, les bouchées à la reine, c'est meilleur.
Tout est léger.
C'était ma grand-mère qui faisait ça. Donc,
tu sais ce que c'est, les bouchées à la reine?
Oui, je connais.
Ah, c'est trop bon. Et donc, on ferait ça avec une belle salade et tout en accompagnement pour que ce soit plus digeste. Et alors, en dessert, évidemment, les plateaux de fromage, tous les fromages de France.
Oui, bien sûr.
J'aime tous les fromages. Donc, je viens de faire des analyses de sang. Donc, j'arrête.
Ah d'accord, mais... t'as du cholestérol. Oh, ouais.
Et sinon, alors en dessert, c'est le gâteau que faisaient mon papa et ma maman ensemble.
Oui.
Donc ça c'est super parce que c'est, je crois qu'on peut appeler ça comme une charlotte. Maintenant on appelait ça une charlotte, mais eux, alors c'était. C'est des, vous voyez ce que c'est, les biscuits brossards?
Oui, très bien. Voilà. Bien tout à fait. Il les trempe?
Oui.
Ah, mais je connais ça.
Mais tu les trempes dans l'alcool.
Dans l'alcool, dans le café, il y en a, ça dépend.
Voilà. Mais en France, tu les trempes dans l'alcool.
Et voilà. C'est bon, ça.
Voilà. Et t'as après, tu fais une couche de chocolat. Mais elle faisait elle-même le chocolat.
Jean-Philippe, t'as oublié de préciser
crème
un
de marron.
T'as oublié de préciser quelque chose.
Quoi?
C'est que quand tu manges français, dans la bonne France que j'aime, tu dois citer les vins que tu vas boire.
Oui.
Très important.
Ah, oui. Ouais, d'accord.
Bon, alors là, ça sera du Beaujolais, mais des grands crus.
Voilà. Mmh.
Hein,
parce qu'il n'y a pas que de la piquette dans le Beaujolais.
Bah, exactement. Contrairement à... Voilà,
Beaujolais nouveau, c'est du marketing.
On oublie le Beaujolais nouveau à Paris.
Non, c'est du marketing.
Et marketing total. Mais par contre, quand on va là-bas, en région, et qu'on sait chez qui on va, les viticulteurs qui travaillent extrêmement bien et qui sont honnêtes par rapport aux vins qu'ils font. Il y a des vins magnifiques, sans aller dans les Juliennas, les Brouillés, forcément. Et puis j'aime beaucoup le Bourgogne.
Il nous a régalé. C'est-à-dire, je crois que c'est de tous nos invités, c'est celui qui nous a donné le plus de détails hein, quand même, sur son repas.
Mais la France,
on sent le gourmand quand même.
Mais après, tous les deux, ils faisaient la chantilly. Donc après les crèmes de machin, tu
vois très bien.
Voilà. Et après,
c'est pour ça qu'ils étaient à deux en fait. Un est trempé, l'autre est posé.
C'est mon papa qui mettait les petites crottes de
chantilly.
Je le revois tellement bien.
Un petit Dijon. Pour terminer,
Attends, parce qu'il nous reste une minute et je voudrais lui poser une question.
Oui.
Mais là, la dernière question que je vais te poser, alors avant de dire aux auditeurs que si, évidemment, vous avez l'occasion dans une ville en France, parce que Jean-Philippe va partir en tournée, donc on vous dira, nous, on postera des choses sur la page de C'était pas prévu au programme. Donc rappelez-vous cette pièce Maquisard 2 et avec Jean-Philippe Bèche. C'est très court parce qu'en fait, il est seul avec lui-même et c'est magnifique. Vous allez passer.
On est plein de monde.
Et vous êtes plein de monde. Vraiment, vous allez passer un moment magnifique. Alors, moi, la dernière question, elle n'est pas pour Jean-Philippe, elle est pour Fifi.
Oh oui, d'accord.
Fifi, donc tu reviens à Fifi.
Donc je reviens,
d'accord,
ouais,
tu reviens.
Ouais.
Qu'est-ce que tu lui dirais à Fifi aujourd'hui?
Continue, monte les escaliers et ne t'arrête pas et ne te retourne pas trop. Parce que
j'ai
tendance à me retourner.
Eh ben bravo. Eh ben écoute, nous en tout cas, on était très très contents, Marc et moi, de te recevoir.
Et moi.
C'est un vrai bonheur, un vrai
cadeau,
plaisir.
Merci.
Moi, je veux faire quand même un big up à mon enfance parce que quand je le vois, j'ai trippé sur tout.
Ouais.
D'ailleurs, sur les prochaines pièces de théâtre qu'il va jouer.
J'allais finir avec ça, mais on a déjà Jane Radar. Je te laisse le dire
alors.
On peut le dire. Bien sûr qu'on peut le dire.
Je suis très fier, moi.
Ouais. Bien sûr. Alors, une jolie collaboration.
Oui, il y a quelqu'un que vous connaissez bien ici qui s'appelle Marc Fichel.
Ouais.
Et qui me fait un cadeau d'une générosité et magnifique parce que par son talent, il m'a offert une virgule, plus qu'une virgule musicale, un temps musical qui va s'incorporer dans la pièce très vite. Je pense qu'on va le faire à Vittel. Je pense qu'il y aura les
conditions
techniques
pour le faire. Alors, ceux qui sont à Vittel, allez-y.
Donc, le 6 juin, on est à Vittel pour Maquisard. Et là, on entendra... ce morceau de musique magnifique que tu m'as envoyé.
Voilà, qui va faire partie de cette
en même
jolie
temps,
pièce.
À Vittel, quand il a le t-shirt qu'il a à 45, ça me rappelle toute mon enfance, parce que c'est le t-shirt du Club Med.
En tout cas, tu reviens quand tu veux.
Oh, merci.
Tu as toujours de l'actualité, donc tu reviens quand tu veux. Marc, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Arnaud.
Bonne fête de Pessah.
Bonne fête de Pessah. Exactement.
Oui.
Une belle traversée.
Et pour la petite histoire, on s'en fout, c'est pas grave. Vous savez qu'en Iran, il a plu de la pluie rouge. Je dis rien.
Voilà, sans commentaire. on ne sait pas pourquoi, mais c'est très bizarre. En tout cas, passez Pessah en famille. Aimez-vous.
Oui.
Et soyez libres. C'est ça qui est le plus important.
Exactement.
Soyez libres. C'est ça qui nous donne toute notre légitimité. À
Bravo.
Bientôt. Ciao.